Quelle impression avons-nous en écoutant ce récit? Tout d'abord que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, sont très ambitieux et que leurs 10 collègues, les 10 autres apôtres, ont peut-être raison de s'indigner parce que l'humilité est plutôt une vertu cardinale. Sauf qu'en examinant le récit un peu plus près, ce que nous allons faire, on est obligé de constater que c'est l'inverse qui est raconté. La démarche des deux frères est au contraire accompagnée par Jésus, encouragée, alors qu'il va sévèrement critiquer l'attitude des 10 autres comme étant le reflet d'une tyrannie. Cette inversion du sens par rapport à notre intuition est à mon avis délibérée. C'est une méthode que Jésus emploie assez souvent dans ses paraboles, tout simplement par des retournements qui nous prennent par surprise, afin de nous aider à entrer dans une logique différente, la logique de l'Évangile. Si on reprend le récit pas à pas, cet épisode commence par Jacques et Jean, l'union de deux frères sur un projet commun. Et c'est vrai qu'un des points essentiels de l'Évangile, c'est la bienveillance de Dieu pour nous. Après, c'est vrai qu'à nous de faire corps ensemble par rapport à un projet à mener. Quand Jésus nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est ce que nous faisons en ce moment même. Et donc, merci d'être venu ce matin. Nous sommes ainsi rassemblés ensemble. Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus. Alors, c'est un peu bizarre parce que les 12 sont déjà là autour de Jésus. Cela semble bizarre parce qu'il n'y a pas de distance a priori entre les uns et les autres différenciée. Ce n'est donc pas une question de distance en nombre de mètres. On peut être d'ailleurs physiquement à côté tout en étant éloigné dans son cœur. Le récit nous dit que les deux frères s'approchent du Christ. Alors si ce n'est pas une question de centimètres, c'est peut-être une question de qualité d'être. C'est-à-dire, pour expliquer un petit peu, de la qualité d'humanité et de foi que Jésus-Christ représente, sa liberté de penser, sa liberté de culte et de prière, sa façon d'aimer, de servir et d'espérer. Il s'approche de la profonde cohérence, finalement, qu'a Jésus entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ils sentent cette cohérence. Ils en sont, je dirais, un peu fascinés. Et de sa qualité de présence au monde et à Dieu en même temps. Alors si seulement à la sortie de ce culte, nous pouvons nous être approchés un petit peu plus du Christ, ce sera déjà très très bien. Alors c'est pourquoi, comme ces deux frères, nous nous sommes assemblés ce matin. Non pas pour dire du mal des autres, comme le font les 10, mais plutôt comme font Jacques et Jean, pour nous approcher de Jésus. Alors Jacques et Jean lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous quelque chose. » Il y a deux points excellents dans cette petite phrase. Le premier, c'est d'abord qu'ils reconnaissent Jésus comme maître. Ils se placent à son école, ils écoutent son enseignement, et ça passe un peu par un effort de compréhension, d'assimilation, d'évolution dans leur propre façon de voir. Le premier point peut être résumé par ce qu'on appelle aujourd'hui l'écoute active, une écoute attentive qui relance un peu l'autre dans son expression. Les deux frères vont plus loin en demandant à Jésus d'agir dans leur vie. Et là, c'est un autre degré dans la confiance. C'est comme quand on va chez le médecin. C'est une chose d'abord d'écouter ses conseils d'hygiène de vie, c'est beaucoup plus quand on lui demande de nous opérer. Là, il intervient sur notre corps. Le saut que font les deux frères, Jacques et Jean, ils le demandent avec timidité. Mais en aucune façon, ce n'est autre chose qu'un droit ou qu'un service qu'ils demandent, une petite faveur. Alors Jésus répond à leur démarche, comme souvent, en reposant une question à son tour. Il le fait très fréquemment dans la Bible. « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Alors cette question, elle est excellente, elle est même fondamentale. Maintes fois répétée, de quoi avons-nous soif ? Avons-nous seulement soif de quelque chose ? Est-ce que notre prière, qui est souvent là pour demander quelque chose, est-ce que notre prière est légitime? De quoi rêvent les deux frères? Alors là, l'histoire se complique un petit peu pour notre vocabulaire du XXIe siècle. Donne-nous d'être assis dans ta gloire, entrant dans tes droites et l'autre dans tes gauches. C'est effectivement assez étrange pour nous. Si on astique une lampe en cuivre trouvée dans une brocante et si un génie nous proposait de faire un vœu, nous ne penserions sans doute pas une seconde à cette demande-là. Ce serait bien dommage, car cette demande des deux frères, elle est excellente, comme le montre le fait que Jésus les aide à affiner cette demande, à mieux la comprendre, à affiner non pas leur objectif, mais les moyens d'y arriver. Quand Jésus n'est pas d'accord avec ce que pensent et disent les apôtres, il n'hésite pas à le dire nettement. C'est son rôle de maître. Et c'est ce qu'il va faire immédiatement après pour les 10 autres. Les 10 autres apôtres qui n'ont rien compris à ce que demandent leurs 2 collègues. Peut-être que leur problème à ces 10-là, c'est de ne pas avoir le même niveau de culture biblique qui les placerait à un niveau de connaissance et de niveau décalé d'éducation qu'avaient Jean et Jésus en tout cas. Et cela a pu faire que les 10 se méprennent sur la demande des 2 frères. Prenant un peu leur demande au sens commun dans la pensée grecque, mondialisée de leur époque, et non pas dans le sens un peu plus technique qu'elle a dans la Bible hébraïque. Alors de quoi parle-t-on quand on dit « assis hein, à ta droite et à ta gauche dans ta gloire » La gloire dont il est question ici n'a rien à voir avec les honneurs du monde auquel fait référence un dictionnaire de grec classique. Et le trône de gloire, comme le répète d'ailleurs le texte aux Hébreux, il est donc en miroir de texte du jour, n'est pas un fauteuil en bois doré comme le pensent les 10 apôtres. Dans la Bible hébraïque, la gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est une expression consacrée pour parler de la présence efficace de Dieu et cette présence auprès de son peuple pour lui donner la vie. C'est ainsi que dans le livre de l'Exode, la gloire de l'Éternel arrache les Hébreux à l'esclavage du Pharaon, qu'elle se manifeste au Sinaï pour leur donner des conseils de vie et qu'elle marque les étapes de leur route à travers le désert. Chercher à être associé à cette gloire n'est donc pas une course aux honneurs, comme le pensent les 10, mais c'est plutôt espérer d'entrer au service actif avec Dieu, en Christ, pour aider d'autres personnes à avancer dans leur vie. Et là, on approche du message central, vous verrez dans un instant, du texte, qui est de rentrer au service des autres. Alors si les 10 autres apôtres n'ont pas compris, néanmoins Jésus les appelle. Vous avez remarqué dans le texte, Jésus les appela. Cette expression est encore un peu inutile, sauf que cela montre un contraste avec les 2 frères qui se sont approchés du Christ. Donc c'est pour faire ce contraste, il y a les 2 qui se sont approchés, puis les autres qui sont restés un peu en dehors, et là Jésus les appela. Alors non seulement ils ne comprennent pas et ne cherchent donc pas à comprendre ce qui se passe, mais comment comprennent-ils le mot « gloire » Précisément, la gloire du Christ va consister à se rendre présent auprès d'eux et à chercher à les mettre en mouvement, à les bouger. Jésus les appelle et leur parle. Il agit en maître qui aime les élèves qui lui sont confiés. Il agit en médecin qui va vers le malade pour le soigner et le libérer de ce qui l'empêche de vivre. Alors, Jésus ne les accuse pas directement. Il leur tend le miroir d'une petite histoire, mettant en scène les tyrans du monde qui comprennent la gloire dans leur supériorité et le pouvoir sur les autres. Et Jésus leur dit qu'ils ne soient pas ainsi parmi vous. Donc, ne faites pas comme ces tyrans qui abusent de leur pouvoir sur les peuples dont ils ont la charge. Et c'est ce qu'ils font en jugeant leurs 2 collègues, et qui plus est, en les jugeant de travers. Mais ce n'est qu'un petit symptôme, le problème il est plus profond. C'est leur propre conception du mot « gloire » à ce moment-là. C'est leur échelle de grandeur qui est nocive, comme si la grandeur d'une personne consistait à être au-dessus des autres, à les dominer. À cela, en fait, Jésus répond « c'est la racine de la tyrannie ». Alors il n'en est pas ainsi dans cette notion de gloire de l'Éternel dans la Bible, qui consiste pour Dieu à être serviteur des Hébreux. C'est ainsi que l'Éternel, révélant sa gloire à Moïse, lui apprend que Dieu bénit une personne en levant son visage vers elle. Dieu s'étant donc placé sous la personne pour la relever et l'aider à avancer. La gloire de Dieu est donc d'y arriver. C'est particulièrement ce type de gloire que l'on voit se manifester en Jésus, évidemment celle d'être serviteur des autres. C'est ce qu'il montre d'ailleurs dans un geste qui est un peu le testament de la scène, à la scène, quand lui, le maître et le seigneur, leur lave les pieds. Il est leur serviteur. Alors Jacques et Jean demandent de participer dès maintenant au service que Jésus est en train d'accomplir et dans lequel ils reconnaissent quelque chose dans ce qu'accomplit la gloire de l'Éternel pour sauver les Hébreux. Ils font un parallèle. Les deux frères demandent d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors là, un petit commentaire, le sens de la droite et de la gauche, il ne faut pas le prendre au sens politique, évidemment. Il était assez clair dans la culture de l'époque. Un combattant portait une épée dans la main droite et un bouclier dans la main gauche. Un peu comme les deux outils complémentaires d'une défense et d'une action. C'est effectivement comme dans la vie, il est utile d'avoir une énergie pour avancer et une résistance à ce qui pourrait nous perdre. Jacques et Jean ont dû remarquer dans l'action de Jésus à la fois sa compassion pour ceux qui souffrent et son action pour les faire se déplacer. Jésus réconfortant les affligés, mais troublant les trop confortables. Les deux frères faisant équipe se répartissent les deux côtés du service. L'un se sent peut-être plus porté sur une mission de soins et de compassion, l'autre frère étant plus porté sur la mission par la proclamation de la parole, comparée dans la Bible à une épée à double tranchant. Cette même parole acérée qui permet à Dieu de créer, souvenez-vous, la différence entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et la haine, entre la vie et la mort. Alors, contrairement à ce que pensent les 10 autres apôtres, les deux frères savent qu'il n'y a pas qu'une seule place à droite et qu'une seule place à gauche du Christ. Il y a des places pour tout le monde au service du Christ. C'est pourquoi il est question ici des places de droite et des places de gauche, les droites, les gauches, au pluriel. En fait, chacun, selon sa personnalité, son histoire, ses propres choix et les occasions, les rencontres qu'il a pu faire dans sa vie, en fait, il existe une infinie de façons de prendre place dans le service actif du monde avec le Christ. Alors nous le voyons bien par l'engagement des uns et des autres ici même, que ce soit dans la cité, dans une association, dans cette église, dans sa famille, au service des enfants, au service des plus âgés. On le voit bien que on a tous notre place. Chacune, chacun peut trouver sa place en apportant son temps, son énergie, son enthousiasme au service des autres. Eh bien, c'est ce que nous dit Jésus. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie afin d'affranchir une multitude. C'est la mission fondamentale de tout être humain que nous sommes. Et donner sa vie, je vous rassure, cela ne va heureusement pas toujours jusqu'à la perdre comme Jésus. Mais cela, en toute humilité, consiste à faire le mieux possible. Comme on peut, en fonction de nos moyens, en fonction de notre disponibilité. Parfois aussi, on le voit autour de nous, en fonction de notre force physique. Un membre de cette église me disait récemment, quelqu'un qui a bien vieilli, « Ah, je ne me sens plus utile. Je ne sais pas à quoi je vais pouvoir servir. » Mais en fait, tant qu'il y a de la vie, on peut trouver matière à servir. On peut trouver le domaine dans lequel on peut au moins être présent auprès des autres, apporter un peu de son sourire, tout simplement, de son écoute, de son attention aux autres. Le service des autres, il commence par là. J'étais aussi assez influencé personnellement par la philosophie du christianisme social et de Wilfried Monod, qui disait « Il n'y a pas de service divin sans un service humain. » Je vous laisse méditer. On ne peut pas servir Dieu si on ne sert pas les hommes. Alors, certaines traductions disent qu'il faudrait donner sa vie en rançon. Mais il n'y a pas de mot « rançon » dans le texte grec d'origine. Pour libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte, la gloire de l'Éternel n'a pas payé de rançon. C'est ainsi que Jésus agit pour que chacun soit un peu plus libre de penser et de vivre par sa parole et par l'Esprit agissant en nous. Alors Jacques et Jean ont donc parfaitement raison dans leur soif de servir aux côtés du Christ. C'est une excellente et juste ambition. C'est une demande légitime à ce moment-là d'être aux côtés du Christ. Et finalement, ce que Jésus les amène à reconsidérer, c'est la façon d'atteindre cet objectif. Ils demandent à Jésus de le faire pour eux, mais Jésus leur explique que cela ne marche pas comme ça. Entrer au service, leur dit-il, c'est comme de boire dans une coupe. Personne, pas même le Christ, ne peut boire à la place d'un autre, ni prendre un bain pour le baptême à la place d'un autre. Les deux frères ont tout simplement soif d'entrer dans le service actif avec le Christ, et pour cela, leur dit Jésus, il leur suffit de boire à la coupe qu'il est en train de boire et d'être plongé dans le bain dans lequel il est plongé. Et finalement, il nous demande de le suivre sur le même chemin. À quelle coupe Jésus boit-il quotidiennement pour se ressourcer? Et finalement, il nous invite à faire de même. Les apôtres le voyaient, le savaient et l'ont pris. Jésus s'isolait régulièrement pour prier et pour s'interroger avec Dieu. C'est un acte volontaire de sa part. Contrairement au baptême, qui est plutôt quelque chose que l'on accepte au sens un peu passif du terme. Littéralement, le baptême est reçu comme un don. Il faut se laisser être plongé dans le bain. Plongé dans quoi? Mais tout simplement dans la grâce de Dieu, dans cet amour inconditionnel de Dieu, dans son aide et dans son esprit, son souffle créateur. Personne, pas même le Christ, ne peut donner cela, car c'est préparé à l'avance, dit le texte. Dieu qui l'a préparé de toute éternité pour chacun de ses enfants. Alors, comme Jacques et Jean, si vous voulez nous rendre un peu utile, vous rendre un peu utile dans cette vie, au service des autres, venez, nous dit Jésus, venez car tout est déjà prêt pour vous, préparé pour vous. Amen.